Les escomptes Lecomte fêtent leurs 40 ans cette année. Pour l'occasion, découvrez leur magasin de Noël, Lecomte de Noël. Sensationnel et féerique, il est le plus grand magasin de Noël à Québec. Pour emballer, illuminer, cuisiner et embellir votre maison pour les fêtes, situé dans l'ancien local de La Liberté. Un autre incontournable, la boutique Brico Déco. Elle vous charmera par son originalité, sa sélection designer et son ambiance cocooning. Parfait pour vos cadeaux de Noël. Leur équipe sera là pour vous servir et vous conseiller. Stationnement facile d'accès, Brico Déco et Lecomte de Noël, rue Saint-Joseph.
C'est la semaine du Vendredi fou d'Amazon. Avec jusqu'à 35% de rabais sur les jouets des bas de Noël. Sur la technologie d'annulation du bruit pour de belles nuits. Et sur la mode, dont des pantoufles pour défiler sous le gui. Magasinez les offres du Vendredi fou d'Amazon maintenant.
La nouvelle programmation de Boulevard va faire jaser cet automne.
Il y a quelqu'un sur la hotline, allô Boulevard?
OK.
Rage Against le matin, l'open mic, le pit stop, Marceau le midi, Gravel dans le retour, Marceau le soir, le volume au max, le rock and chill, le boulevard du rock, le volume à blanche. Boulevard 102.1, bon la semaine, la fin de semaine, qui t'informe sur ce qui se passe à Québec et ailleurs. Des gros dossiers comme les petites niaiseries.
Moi, je serai où?
Je vous écouterai. Sans oublier le meilleur de la musique rock, de tes années grunge et pop-punk à aujourd'hui.
Non, moi, je serai où? Je vous... Non. Maintenant, il faut nous écouter.
Bravo!
Oui! On est content de vous retrouver.
Pour vrai, on est content. J'espère que vous l'êtes aussi.
Boulevard 102.1.
Propriété Leclerc Communication.
Boulevard, le pit stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le pit stop avec Gravel et Marceau.
Un excellent vendredi, Denis Gravel qui a de l'air en forme pour célébrer sa fin de semaine.
Début de week-end, yes sir!
Pascal, on a-tu notre réponse concernant le show de Brathwaite?
Hey, t'es au hot, capitaine? Je t'ai fait un des signes les plus incompréhensibles, mais si jamais il va avoir compris.
C'est l'histoire de ma vie, essayer de te comprendre.
bonne chance, ça va être long. 8 décembre, si vous voulez aller voir New Orleans Blues au Capitole.
Right.
Et petit incident là, peut-être à signaler avant votre pit stop, les gars. Félix Leclerc-Ouest, sortie boulevard des Chutes, c'est partiellement entravé. Il y a un incident et il y a beaucoup de services d'urgence sur place. Le remorquage est en cours.
Parfait. 418-971 101, si vous voyez quoi que ce soit sur la route, les amis, merci d'être nos yeux et nos oreilles. Puis en même temps, si vous voulez participer au Pit Stop, ben c'est le même numéro de téléphone, ça fonctionne par texto. Tu parlais avec Pierre cet après-midi?
Oui, Pierre Roud qui est à New York. Les deux matchs sont en après-midi, en fin de semaine. Les deux matchs sont du côté de RDS. Demain, c'est les Rangers à 13h au Madison Square Garden. 15h, c'est le match des Bruins. Mais la mise au jeu ne sera pas à 15h. On célèbre le centenaire des Bruins de Boston ce dimanche. Je ne le savais pas. Fait que le match va débuter aux environs de 16h parce qu'il y a des cérémonies protocolaires et tout ça. Puis Pierre fait dire que si vous voulez les regarder, les cérémonies des Bruins, là, rds.ca, ils vont les présenter en intégrale. Je sais qu'il y a des partisans des Bruins de Boston dans la région de Québec. Eux autres commencent leur avant-match à 15h30 à la télévision. Mais rds.ca, à partir de 15h, il y a moyen de suivre les... On a choisi le match de dimanche pour souligner le centenaire des Bruins de Boston.
Ah, c'est cool. Puis est-ce qu'il y a déjà dîné avec Véro? Ben ça se fait là présentement.
Ouais, là, je vous raconte la chronologie. Vous connaissez l'envers des coulisses dans le pit stop, messieurs, dames. Je viens de finir de parler avec Pierre.
Ah, c'est déjà fait.
Oui, parce que dans l'horaire du temps, Pierre s'en va manger avec Véro cet après-midi. Puis,
Véro a toujours su se placer les pieds.
C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas comment, mais je pense qu'elle va se rendre à Henrik Lundqvist dans le courant de la fin de semaine. Mais c'est drôle parce que hier, elle m'a envoyé des photos. Il était d'un restaurant, elle et sa copine. Puis il était avec l'acteur Nathan Lane, qui est quand même un acteur... Alors, regarde ça à face, là, tu l'as vu dans plein de films. Je pense qu'il a été sur Broadway longtemps aussi.
Oui.
Il joue dans la série Only Murders in the Building, là, présentement, là, qui pogne pas pire sur Disney+. Fait qu'elle est déjà en celebrity watching. Là.
Elle a mangé à côté et pas avec lui.
Ouais, je sais pas à quel point ils ont été entreprenants.
C'est intéressant, ça faudrait enquêter.
Tu sais, des fois, après deux, trois verres dans le nez...
Mais je pense
là,
pas que ce soit son genre d'homme.
Non, je pense pas.
Mais on parle pas d'histoire de French, Yannick.
Okay,
on peut parler à des gens qui sont moins notre style aussi, ont beaucoup à nous apporter.
Ben oui, des fois.
Ben mon Dieu, si on m'avait dit ça avant. J'aurais fait des rencontres intéressantes, des conversations. Moi, je parlais rien que pour Frenchie.
Toi, tu voulais juste Frenchie.
Ben oui, ben oui.
Toi, t'es Frenchie de la radio du Québec.
Si t'es à New York ou encore à Los Angeles, t'as besoin de Véro avec toi pour reconnaître les stars.
Écoute, pour vrai, c'est une guide extraordinaire. Puis moi, j'ai eu la chance, j'avais pas la passion du voyage en dedans de moi. Puis il y a de cela 25 ans, ou presque, quand on était un couple, mes premiers voyages, c'était avec Véro que je les ai faits. C'est elle qui m'a sorti de mon cocon,
puis
littéralement.
Mais quand même, ou comment t'as amené à vouloir dépasser là-dedans puis à partir?
Tout me faisait peur. Prendre l'avion me faisait peur. Aller vers l'inconnu me faisait peur. Puis j'avais même pas la curiosité de sortir. Mais quand tu sors avec quelqu'un qui aime ça, puis qui te guide vers les bons spots, puis ainsi de suite. New York, je l'ai fait une couple de fois avec Véro. Ça a été extraordinaire. J'ai découvert plein de beaux spots. Puis c'est drôle parce que la fois qu'on a fait New York ensemble, c'est qu'on guidait un autobus de lutte. On allait voir le SummerSlam et le gala NXT TakeOver du côté de New York, du côté de Brooklyn précisément. Fait que dès que l'autobus s'est parqué, les amateurs de lutte sont partis à gauche, puis nous autres, on est partis à droite, puis on a fait du tourisme un peu plus Véronique Bergeron.
Ouais, là, mais je pense que toi, c'est plus le contrôle de ton environnement. Tant que tu es en contrôle de ton environnement, tu es correct.
Oui. Ouais. Je pense
des gens te sortir de ta bulle.
Sauf que Véro est organisé, ça a dû t'aider aussi. Ouais. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup voyagé, avoir un semi-horaire, savoir où est-ce qu'on s'en va, à quel moment, c'est moins troublant peut-être que d'être un petit peu free-for-all.
Mais j'ai aimé ça, d'avoir cet apprentissage-là, parce qu'après ça, j'en ai fait des voyages solo. T'sais, j'ai fait Los Angeles tout seul, je suis allé dans l'Ouest canadien tout seul. Puis si j'avais pas eu ça, cette base de départ-là, quelqu'un qui me montre comment organiser un voyage, comment c'est pas si pire que ça, finalement.
Puis que c'est le fun.
Puis c'est peut-être un peu grâce à elle, rétroactivement, que la famille Gravel, qui avait jamais quitté le Saguenay, a pu aller voir l'Italie en famille en 2010. Fait que la piqûre du voyage, quand t'as pogne, là, ça peut s'étendre longtemps.
T'as-tu appris l'italien très rapidement, comme Pascal? Ou...
Oh là là, non. On est resté très basic dans notre italien.
C'est que t'avais uno peut-être... uomo italiano.
Ah voilà. T'avais peut-être moins d'intérêt pour la faune ambiante.
Oui, dans un voyage familial où tu fais du tourisme, c'est pas là que tu checkes le plus ce qui se passe autour de toi.
Oui, mais toi, tu pouvais parler avec ta famille. Moi, je pouvais pas parler avec personne. C'était pour...
C'est là que le French embarque. C'est un langage universel.
Exact.
Tout le monde sait c'est quoi.
Exact. Hey, on a plein de choses à jaser dans le Pit Stop, les amis. Denis, je te pose la question. Comment, sur le site de la Ville de Québec, on peut répondre à un sondage concernant la grosseur des automobiles versus les espaces de stationnement disponibles? Comment on peut demander aux citoyens de Québec, est-ce que vous seriez favorable justement à ce que un propriétaire de petite voiture soit moins impacté, soit moins tarifé qu'un propriétaire de SUV, exemple, ou encore d'un camion, d'un F-150, mais que le maire, lui, se dit totalement contre ça. Comment on peut en arriver là? Parce que le maire marchand, il affirme, lui, qu'il n'a pas du tout l'intention d'imposer un tarif de stationnement en fonction de la grosseur des véhicules. Sauf que sur le site de la ville, quand on consulte les gens, c'est exactement ce qu'on propose.
Vois-tu, j'haïs pas ça, moi, de dire... Les idées que je suis pour, les idées que je suis contre, on les pitche toutes sur le mur. Au-delà de ce que moi, je pense, peut-être que le maire a appris dans les dernières années, je trouve pas ça méchant, moi, comme concept, que ce soit peut-être les citoyens qui aillent le dernier mot. Mettons qu'il y a une idée que le maire pense que c'est pas bon, là, puis qu'il se rend compte que ça répond très fort, puis que ça répond très favorablement. Bien, de voir un maire qui dit « OK, là, il y a peut-être un angle mort que j'ai pas vu, puis il faut peut-être que je me rajuste à un niveau ou à un autre. » Moi, l'idée que c'est les électeurs puis que c'est les citoyens qui donnent leur son de cloche puis que ce son de cloche-là est plus important que ce que peut penser un maire, je trouve ça full démocratique.
Mais moi, je trouve ça intéressant comme point de vue puis j'aime beaucoup ton opinion par rapport à ça, mais pourquoi le maire change? Pourquoi il décide de dire « Hey, moi, je suis pas pour ça, mais si dans le sondage, la population est pour, j'aurais pas le choix de me plier à ça. Ouais. » Pourquoi le maire change après tant d'années?
Ben Ça sent l'élection, hein?
Ouais.
Ça sent le prochain mandat, ça sent le fantôme de sa mamade, et ainsi de suite. Puis tant mieux si c'est le cas. Notre système est cruel.
Pourquoi,
le seul moment où les politiciens s'occupent de nous autres, c'est le moment où ça commence à sentir les élections. C'est dans ce temps-là qu'on nous pitche des chèques de 250$.
Oui, on l'aura pas, le chèque.
Non, on l'aura pas.
Parce qu'elle est contente, elle a célébré hier au Capitole.
Oui. Hey, d'ailleurs, merci à ceux qui surveillent l'économie canadienne avec rigueur, le NPD. Grâce à eux autres, on n'aura pas notre chèque de 250$.
Puis M. Girard, qui est le ministre... au Québec, qui décide à savoir si lui peut enlever la TVQ ou pas, a décidé qu'il n'embarquait pas là-dedans.
Évidemment.
On est assez dans le trouble là-dedans. Mais je trouve ça triste, moi, que les politiciens décident de faire leur job quand on est sur le bord des crissés dehors.
Ben, vois-tu, on parlait d'une procédure de recall cette semaine qui permettrait à mi-mandat de demander des élections si jamais ça va vraiment pas comme on veut que ça aille. Moi, je pense que ces points de rendez-vous-là sont cruciaux. Parce qu'on voit les politiciens changer lorsque ça commence à sentir la campagne électorale. Et malheureusement, tragiquement, il y a juste dans ce temps-là qu'ils s'occupent de nous autres. Si on n'avait pas été sur un beat électoral lors du projet de Nouvelle Arena, on n'aurait pas eu de Nouvelle Arena. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y avait des élections à gagner, puis c'est pour ça que les cordons se sont déliés à tous les niveaux. Là, on voit le maire Marchand qui peut-être commence à ajuster son bateau, justement, pour les prochains mois. Il n'y a pas de hasard. C'est relié à une élection qui s'en vient. Puis c'est une ouverture qu'on n'a pas nécessairement vue beaucoup dans son premier mandat. T'sais, c'est un gars qui apparaît entêté lorsqu'il y a une idée entre les deux oreilles. Ça lui a coûté cher, je pense, entre autres, dans sa relation avec le gouvernement du Québec.
Puis, tu sais, t'es pas obligé de répondre à ce que je vais dire, là. Ça n'engage que moi, mais à mes yeux, à moi, Bruno Marchand est un menteur. Il a menti pour se faire élire, a été élu après ça, a commencé à mettre son plan à exécution. Et là, tend à revenir le Bruno Marchand d'avant qu'il se fasse élire. Est-ce que si on le remet au pouvoir, par malheur, excusez-moi, si on le remet au pouvoir, est-ce qu'il va redevenir le Bruno Marchand qu'on aime peut-être un peu moins ou le Bruno Marchand qu'on s'attendait? Est-ce qu'il a perdu la confiance des citoyens? Moi, je pense que oui, mais en même temps, si ça vous tente de participer, 418-971-1021, moi, je pense que les gens sont un peu écœurés du type de politicien ou de la politicienne qui va te dire quelque chose, puis une fois rendu au pouvoir, va faire totalement le contraire pour, après ça, la dernière année, quand il a le cul directement entre à terre et sa chaise, va se dire, ouais, je devrais peut-être écouter la population, comme François Legault le fait quand il y a eu une élection partielle dans Jean Talon.
Mais permets-moi d'être l'ange sur l'autre épaule. C'est peut-être juste un test de réalité que le maire Marchand a eu aussi. Le gars n'était pas en politique active. Je comprends qu'il était d'un organisme social, puis ainsi de suite. Mais tu peux garantir et promettre bien des choses quand tu ne sais pas comment la machine fonctionne, quand tu ne sais pas trop, que tu ne connais pas trop les rouages. Je me souviens des promesses du premier mandat La Bombe, puis du discours du premier mandat La Bombe, puis ça va tout être des conseillers indépendants, ça va bien aller, puis toute la patente. Puis quelques années plus tard, ben tu n'avais plus de conseillers indépendants. Tu avais juste équipe La Bombe qui régnait en roi et maître. À l'hôtel de ville, des fois, tu as un test qui s'appelle le choc de la réalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de politiciens, quand ils plongent en politique pour la première fois, ils se disent « on peut changer les choses ». Puis finalement, un coup qu'ils sont dans la machine, ils repartent pas tous avec leurs chaises de l'Assemblée nationale quand ça marche pas. Il y en a beaucoup qui se rendent compte, ah OK, c'est plus compliqué que je pensais. On peut regarder les 22 derniers ministres de la Santé qui pensaient réussir à sauver le système puis qui n'ont pas réussi à la queue-leu-leu.
Parfait, mais excuse-toi. T'as dit, j'irai jamais avec un projet de cette ampleur-là à coût de milliards de dollars si j'ai pas la population derrière moi. Il n'a pas la population derrière lui, puis il s'est rendu capitaine tramway. Excuse-toi. Moi, si tu t'excuses, parfait, je vais être de ton bord. Je vais te dire, OK, tu as fait une erreur, tu as le droit, je suis le premier des imparfaits, Pascal saurait te le dire, mais on a le droit de s'excuser puis de dire, regardez, je vais faire en mon possible pour toujours vous donner l'heure juste. Yeah. Mais tu sais, moi, j'ai cette citation-là en tête. Des fois, je l'écoute en boucle la fin de semaine là, pour me stimuler, des fois, à haïr la mairie de Québec.
Fais pas ça, man. C'est pas bon pour toi. Fais d'autres choses la fin de semaine.
Cœur, là.
Prends une bière, prends une marche.
Non, je les réécoute en boucle. Ça me stimule pour faire mon petit stop avec
Je
Denis.
Cultive la haine.
Il y a des affaires que j'écoute en boucle pour me stimuler. Je te garantis que le maire Marchand n'est pas dedans. Là.
Toi, on sait ce que tu fais dans une salle d'attente chez le dentiste, OK?
Je remplis mes fins de semaine.
Ouais.
Hey, c'est 64 % des répondants qui déclarent s'empêcher très, très, très souvent de fréquenter un commerce situé sur une artère commerciale par peur de ne pas trouver de place de stationnement à Québec.
Normal. Ben, on est rendu là. Puis, tu sais, tu parles du tramway. Moi, c'est pas celle-là que j'ai sur le cœur. c'est l'itinérance zéro. L'itinérance zéro, c'est un dossier où on a erré, on n'a pas été capable de livrer, puis il y a des raisons, il y a un ensemble de facteurs, je comprends. Mais l'expression, Claude Villeneuve l'a trouvé, là, on a échappé Saint-Roch. T'sais, on a échappé un secteur de la ville qu'on tenait à bout de bras dans un équilibre qui a toujours été audacieux, là, on va se le dire. Ouais. Là. T'sais, quand il fait soleil et qu'on est dans le bon angle, ça va bien. Mais dans les dernières années, puis t'sais, le maire Marchand n'est pas entièrement responsable. Mais on a eu peut-être des années où on aurait dû bâtir quelque chose, on aurait dû prévenir une coupe d'affaires. Là, t'as plein de sons de cloche, le Benjo qui ferme, les gens de la chocolaterie dont j'oublie le nom, qui étaient là, eux autres, dans le temps du maille couvert. Champagne,
maille couvert, ouais.
Champagne maître chocolatier, puis qui disent, depuis le maille couvert dans Saint-Roch, on s'est pas senti aussi mal dans le bout. C'est des gens qui croient beaucoup au quartier, qui disent, c'est mort à 90%, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Se défend d'avoir échappé Saint-Roch.
Oui, puis c'est dans ce genre de réaction-là, je trouve, que le maire Marchand devrait peut-être réfléchir un peu, peut-être avoir un peu d'empathie, puis nous expliquer que la situation est plus grave que ce qu'il avait pensé au départ. T'as même pas besoin d'humilité pour faire ça. Les politiciens ont beaucoup de misère à admettre lorsqu'ils ont fait des erreurs, alors que tout le monde fait des erreurs. Puis quand t'expliques au monde, il y en a une grande partie qui vont comprendre d'où ça part puis le pourquoi du comment.
J'ai l'impression que c'est une majorité, qu'on est rendu là comme société d'accepter que nos politiciens peuvent faire des erreurs et que nos politiciens s'excusent.
Je pense qu'on accepte l'erreur. Je pense qu'on n'accepte pas l'entêtement et l'aveuglement. Tu comprends-tu la différence entre les deux? T'as des gens qui vont faire une erreur, qui vont s'excuser. Ils sont pas très nombreux. T'as des gens qui vont faire une erreur, qui vont s'entêter à dire que c'est pas une erreur, qui vont s'entêter à continuer de poursuivre l'erreur. Ça, les gens acceptent pas ça parce qu'ils voient clair dans le jeu du politicien. Je pense.
Hey, je veux te parler d'un sujet qui me captive. Moi, la guerre des motards, j'aime beaucoup lire là-dessus. Les histoires de mafieux, ça me fait triper. J'ai reçu un ancien enquêteur au crime majeur avec Audrey la semaine dernière. Notre chum Danny, maintenant, qu'on peut appeler comme ça, qui nous parlait de la mafia puis de l'intérieur de tout. Comment tout ça fonctionne, les Hells avec la mafia à Montréal, avec les gangs de rue, la mafia qui a perdu du terrain. Tueur à gages, Frédéric Silva, qui est un des tueurs à gages les plus prolifiques que le Québec ait connu, là, avec Gérald Galland,
oui.
Il a révélé qu'il y avait 100 000 pour tuer un journaliste de la presse, c'est M. Renault, là, qui est un excellent journaliste, qui est un journaliste professionnel, soit dit en passant, rentre jamais dans le privé pour ce qui est des Hells Angels, pour ce qui est de la mafia, pour ce qui est des gangs de rue. C'est toujours, voici ce qu'il a fait, voici ce qui va arriver, puis voici qui parle avec qui. Le gars voulait tuer un journaliste. On revient à l'époque de Maurice Mom-Boucher, là, avec M. Auger. Là, c'était,
ouais, puis encore, là, ça, c'était pas une culture qui se voulait d'être implantée, là, pour non. avoir lu...
On revient à cette époque-là.
C'est quasiment obsessif de ma part, mais c'était pas quelque chose qui était accepté même des criminels. C'est pas quelque chose qui aurait dû arriver même à ce moment-là. Puis là, c'est vraiment une commande particulière qui revient... C'est fascinant, puis dans tout ce qu'on entend et on voit de la déstructuration du crime comme on l'a connu au courant des dernières années, c'est presque épeurant.
Ouais.
Je sais pas comment un journaliste qui couvre les activités des motards ou de la mafia, c'est-tu comme une médaille d'excellence que tu fais du bon travail quand ta tête est mise à prix par le crime organisé? Lui disait que sur cette période temporelle-là, où il y avait un plan peut-être pour le tuer, le gars, dès qu'il sortait de sa maison, le journaliste, dès qu'il sortait de chez lui, il était nerveux. Il dit « Je sentais qu'il y avait des tensions, j'étais très prudent dans mes textes puis dans ma façon d'aborder les choses. » C'est-à-dire, tu donnes les faits, mais tu ne vas pas plus loin exact. Que les faits. Et si vous me demandez mon avis, c'est du vrai journalisme.
Tu ne parles pas des femmes, tu ne parles pas des enfants.
Ouais.
Tu restes dans le factuel.
Exact.
Puis, tu sais, le cas de Michel Auger, là, si tu te souviens bien, il s'était fait tirer. Là,
oui.
C'était une commande de Maurice Mom-Boucher. Tu sais, lui, il avait parlé de la femme d'un Hells Angels, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on aurait eu idée de le tuer à ce moment-là. Fait qu'il avait transgressé une règle qui était non écrite. Puis c'est une règle qu'on est pas mal tout au courant, là, tu sais, quand tu commences à jaser de ces affaires-là, quand il y en a un qui t'appelle, ouais, voici ce que tu peux dire, puis voici ce que tu ne peux pas dire. Puis les appels se font assez rapidement quand tu connais certaines personnes de ce milieu-là. Mais Daniel Renault n'a jamais fait ça. Ouais. C'est juste qu'il rapportait les histoires. Mm-hmm. Puis quand les policiers sont allés le voir pour dire hey, « c'est parce que t'as un contrat sur ta tête de 100 000 $ », il dit « je regardais un peu quand je sortais de chez nous, je regardais un peu par-dessus mon épaule. » Hey, tu veux pas vivre ça?
Et là, la différence, puis moi, je me demande, tu sais, le délateur qui en parle en ce moment, il en parle-tu... peut-être que je suis mal faite, c'est peut-être vraiment stupide comme question, mais il en parle-tu pour essayer de freiner cette couverture journalistique-là qui actuellement... prend beaucoup de place. T'sais. Dans l'actualité, on n'a jamais reparlé autant des criminels et des organisations dans la dernière décennie. Là, avant, on en parlait plus dans les années 80-90, ouais. Un petit peu début 2000, mais après ça, ça a comme tombé. C'est-tu pour faire peur? Ou c'est vraiment arrivé? Il y a plein de questions nébuleuses.
Ben, de la façon qu'on comprend, c'est qu'il est devenu délateur puis qu'on lui a demandé de passer à table. Puis ouais. À un moment donné, on a parlé de son tableau de chasse. On a parlé de ses, entre guillemets, hauts faits d'armes. Puis c'est dans la liste. C'est dans la nomenclature de toutes ces têtes qui avaient été mises à prix, des exécutions, puis ainsi de suite. C'est là qu'il avait fait mention que le journaliste de la presse, à un moment donné, il voulait mettre un contrat dessus.
C'est épouvantable. Il dit, Silva dit, je lui ai dit que le plan que je croyais le plus faisable pour que le journaliste vienne, c'était de l'appeler, puis en passant, le numéro de Daniel est sur le site de la presse. À chaque fin de ses articles, il dit, si vous avez de l'information pour moi, communiquez avec moi.
Tabarnouche, il fonctionne à la Claude Poirier, fait comme dans le temps.
Exact. Fait qu'il est assez accessible. Il dit, le but, c'était de l'appeler, de lui dire qu'on avait des informations à propos des gangs qui se tiraient partout ou de quoi du genre, de lui donner rendez-vous puis après ça, de le tuer tout simplement. Puis la Sûreté du Québec, qui avait recueilli les aveux du délateur, avait mis au parfum le journaliste Daniel Renault à l'automne 2022, mais la menace n'était plus active parce que le contrat de le tuer avait duré 2 mois. Mais là, tu comprends que lui, quand il a su ça, il sortait de chez eux, puis bon, il dit regardez à gauche, regardez à droite. Hey, sérieux, ça n'a pas de maudit bon sens, là.
Écoute,
je suis d'accord avec Pascal. T'sais, il peut y avoir 2 façons de voir les choses. La première, c'est bon, c'était de l'information qui a été recueillie par la Sûreté du Québec, qui a coulé, qui est arrivée aux oreilles de Daniel Renault. Mais l'autre, c'est si vous êtes journaliste, vous couvrez ce milieu-là, votre vie est en danger.
C'est un message.
Vos yeux.
Ouais, c'est ça. Tenez-vous droite.
ou pas. Je veux dire, il s'est toujours tenu droite. Puis il y avait un contrat de 100 000 sur la tête.
Parler d'autres choses.
Parler
du Canadien, parler de la météo.
C'est comme ça que je comprends, le message. Puis c'est un bon point de la part de Pascal dans ce dossier-là.
Le ferais-tu, toi, journaliste, sur le beat? Moi, la différence, c'est je l'aurais fait.
Ça me passionne que je le ferais, mais ouais. Tu sais quoi, je serais le premier à me faire tirer. Je suis tellement inconscient du danger. Là.
Moi, je suis un peu comme toi. Puis quand tu es tout seul dans la vie, c'est une chose. Moi, il y a bien des affaires que j'aurais faites comme journaliste ou comme gars de radio quand t'as pas de blonde, quand t'as pas d'enfant. Mais je trouve que la dynamique, elle change drôlement à partir du moment où il y a des gens qui dépendent littéralement de toi. Moi, j'ai 2 petits garçons. Moi, c'est bien de valeur, mais des menaces d'intimidation comme ça, ça fonctionne à 200%.
Ben,
tu veux pas
famille.
Que je parle de vous autres, je parlerai pas de vous autres. Moi, je tiens à ma vie, je veux être là pour mes garçons, idéalement pour les voir grandir.
Ouais.
C'est ça fait une différence. Ben, moi, j'en ai jamais parlé à la radio, puis j'en ai jamais parlé ouvertement à qui que ce soit, puis je pense que ça va juste de soi dans notre discussion en ce moment. Mais il y a déjà un boss, à un moment donné, qui me dit « OK, on va arrêter », puis tout tout le légal de l'entreprise était rentré en ligne de compte, puis on avait eu des discussions parce que...
Arrêtez quoi?
J'avais fait un dossier de reportage, puis ce dossier de reportage-là, c'était vraiment stupide. J'étais allée dans genre un tribunal administratif du travail pour une autre raison que celle que j'ai enquêtée finalement, puis on m'avait mis sur un mandat d'un bon 6 mois parce que plus je grattais, plus c'était bizarre. Puis ça mêlait le politique avec des organisations. Puis mettons que je vous dis le temps de la séco, là, ça dit quelque chose à du monde, là? Tout ce qui était la viande, là, auparavant, comment c'était abattu, puis que la mafia était là-dedans, puis t'avais des sceaux d'approbation qui avaient été volés pour justement... En tout cas, c'était particulier. Puis il y a un moment où, étrangement, je me mettais à recevoir des courriels de menaces de ci, de ça, puis des appels... Puis un genre de « si tu continues à creuser là-dedans » ou... On avait sorti une bonne partie, ça s'était rendu à l'Assemblée nationale. Tout ce qu'il y avait à faire avec ça a été fait, a été pris en charge. Mais admettons que j'avais continué plus loin, je sais pas. Puis j'ai eu ce dossier-là, j'en avais parlé à... Puis au moment où ça a explosé, c'est quand j'en avais parlé à Paul Hood, à radio. On avait fait le reportage, puis Paul Hood, c'était une bibliothèque d'informations, ben oui. De souvenirs. C'était quelqu'un qui se rappelait de tout. Puis... J'étais tout petite, là, j'avais 22-23. Puis à ce moment-là, on a pris la décision qu'on n'allait pas plus loin. Mais c'est
à cause des menaces ou...
Non, pas à cause des menaces, mais un, tu sais, journaliste d'enquête, maintenant, il faut énormément de moyens.
Mm-hmm.
Et 2, où est-ce qu'on allait atterrir est-ce qu'on avait le, je veux dire, le cartilage, la colonne vertébrale pour s'y rendre à ce moment-là, chez une petite de 22-23, dans une enquête comme ça, qui étrangement allait chercher beaucoup de colère, puis des envies d'écrire à qui que ce soit, tu sais.
Puis, tu sais, moi, je te dis, ce genre de métier-là m'intéresserait peut-être un jour en fin de carrière, là, parce que tu des fois, tu vas être un peu plus relax, fait que tu travailles de chez toi, puis tu fais des téléphones, tu jases un peu avec le milieu interlope, tu jases avec les policiers. Fait que, à mes yeux, à moi, c'est plus relax dans ma tête, mais visiblement, pour Daniel Renault, c'est un sport. Mais ça m'est arrivé dans mon ancienne vie de radio. Je pense que je t'en avais, je sais pas si t'en avais eu vent. Non, mais c'était même pas des menaces. Quand je te dis que j'étais un peu inconscient, là, c'est que je vois qu'il y a un individu qui est recherché, c'est dans le secteur de Québec. J'ai son nom, tout ça. Puis là, j'essaie de retrouver sur Google quand est-ce qu'il s'est fait arrêter exactement. Enfin, je serais capable de te donner une date, là. Mais le gars, il est recherché. Moi, je me dis, crime, il y a une page Facebook, il y a Messenger. Je commence à y écrire. Hey, j'aimerais ça te jaser. Pourquoi tu te rends pas, patati patata? Je vois qu'il lit mon message. Pose pas de questions. Il me répond comme 6 heures plus tard. J'aimerais ça te rencontrer, j'aimerais ça qu'on se parle, puis je vais te réaliser une entrevue. Fait que moi, armé de mon cellulaire, je dis à Phil, qui était mon patron dans le temps, je dis « Phil, je m'en vais rencontrer un gars, ça va être à telle place. » Dans le temps, c'était à la gare, gare de train où tu te stationnes. Là.
Oui. Dans,
le palais de justice est souvent
en
là.
En face du palais de justice. Ouais. Il y a des bureaux d'avocats autour, puis là, tu vas voir que le bureau d'avocats va revenir. Là. Puis là, je dis « OK, parfait. » Fait que je vais voir Phil, je dis « Telle affaire, je vais rencontrer tel gars, je vais avoir une entrevue exclusive, puis d'après moi, tu vas triper, parce que le gars, il est recherché par la police, puis il a l'air d'avoir bien des choses à dire. » Fait que je suis dans mon truck, je descends à cet endroit-là. J'arrive, coin, c'est-tu la salle, la rue du palais de justice?
Celle-là qui passe...
Charret, puis la rue qui est en face du palais de justice. Là. J'étais à la lumière. Mm-hmm. Puis là, tout d'un coup, je vois le groupe d'intervention tactique avec les camions de police. Avec les camions de police qui arrivent, qui s'en vont dans ce stationnement-là. Puis là, je me dis, OK, c'est-tu lui qui s'en vont chercher? Là, je commence à m'approcher. Mais là, tu vois que les gars, ils sont armés d'armes longues et
tabarnouche.
Tout ça.
Toute petite intervention de routine. Là.
Ils ont procédé à son arrestation.
Okay? Ils l'ont arrêté là?
Oui. Là, je me suis dit... Il va penser que c'est moi.
Oui.
Il l'a
vendu.
Ben ouais. Mais finalement, ils ont dit très rapidement, puis on l'a su plus tard par des articles de journaux, il était le bureau d'avocat, parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre sous écoute un bureau d'avocat, puis la ligne d'un avocat.
Okay.
Ils n'ont pas le droit de le faire. Fait que ce qu'ils ont le droit de faire, c'est de stationner un policier en face du bureau d'avocat.
Puis regarder le va-et-vient.
Puis s'ils voient cet individu-là, ben ils peuvent l'intercepter. Fait que le gars est allé... Avant de me voir, moi, il est allé voir son avocat. Fait que la personne qui le watchait a dit « OK, c'est beau, il va probablement sortir du bureau d'avocat un moment donné. » Puis moi, j'étais arrivé sur l'entrefaite quand lui sortait.
T'as quand même dû te poser la question. Mettons que lui, il le voit pas de même.
c'est sûr.
La bonne nouvelle, c'est qu'il est en tôle, là.
Ouais.
Mais deux...
Il va sortir.
Ouais, deux jours plus tard... Je me demandais d'où ça venait, cette voix-là.
C'est moi.
Deux jours plus tard... c'était écrit dans le journal comme quoi voici la façon dont il l'avait pogné.
Okay.
C'était le gars le plus recherché à Québec. C'était un gars qui était violent envers les femmes. C'était quelqu'un qui était dans le milieu de la drogue, bien entendu.
T'avais-tu un backup quand t'es allé là-bas?
J'avais Phil qui savait que je m'en allais là.
C'est
que,
tout?
Ouais, c'était rassurant.
il y a un autre individu qui est décédé, mais que c'était toujours comment dire... Fragile, Del Bazo dans le temps.
Del Bazo, ben quand je l'ai appelé.
Quand il fallait enquêter... Ah oh oui, toi, t'étais paix. Quand il fallait enquêter là-dessus, là...
Ouais. Del Bazo avait...
C'était particulier.
Il était descendu à Québec avec une gang de chums. Del Bazo, c'est Francisco Del Bazo. Il avait été banni de Montréal par la mafia puis par les Hells Angels parce qu'il jouait pas correctement.
C'est un loose cannon.
Fait qu'il s'était réfugié dans le secteur de Drummondville. Drummondville, c'était pas assez un gros secteur. Fait qu'il est descendu à Québec puis t'as sûrement vu l'article passer. Il avait fait de l'intimidation dans une pizzeria.
Ouais.
Puis il voulait acheter la pizzeria. Puis là, les gens s'étaient plaints dans les journaux. Puis là, moi, je vois ça. Puis moi, j'étais un animateur inconnu le soir. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que belle occasion de foutre la marde. Puis avant d'en parler au boss, je me suis dit, je vais le faire, puis après ça, je vais m'excuser.
Ça n'a pas changé.
Tu l'as appelé?
Puis j'ai su par l'entremise d'un de mes chums qui venait d'acheter une Mercedes.
OK.
Fait que là, je dis, s'il vient d'acheter une Mercedes, ça veut dire qu'il a laissé probablement son numéro de téléphone cellulaire. Fait que j'ai appelé mon chum, puis là, j'ai dit, t'as-tu son numéro de téléphone cellulaire? Puis je l'appelais en nom. Puis je disais, représente-toi plus à Québec, mon tabarnak, sinon ça ira pas.
C'est su. super drôle, super cave en même temps.
C'est vraiment cave.
Mais un juvénile. Peu drôle.
Oui, puis quand on m'a engueulé le lendemain, j'étais pas au courant, moi, qu'on n'avait pas le droit de faire des menaces à un mafieux.
Le lendemain, Yannick a un box dans le genou, mais tu sais, on se demande pourquoi.
C'était de l'humour.
Ah oui, ben c'est parce qu'on n'a pas toutes la même mèche courte.
Hein. Mike Ward faisait des jokes là, sur Jérémy Gabriel, ça passait.
Le gars, il allume une mèche.
Faire chier, mafieux.
Le gars, il allume une mèche d'un pouce sur un kilo de dynamite.
Ben voyons, vous n'avez pas le droit, moi.
Pourquoi il panique de même, là?
De toute façon, si jamais il se fâche après toi, il est déjà barré dans la grande ville. Ouais. Ils vont envoyer quelqu'un.
Ouais, j'avais fait la même affaire à Nathalie Normando là, quand elle s'est fait arrêter.
Yannick.
Tu l'avais appelé?
Ben, je l'avais appelé sur son cellulaire.
Ouais.
Ben, elle était en interrogatoire. Puis finalement, Nathalie n'a rien à se reprocher, mais elle était en interrogatoire pareil. Fait que j'appelais puis je disais « Dis rien! » le coucou est dans le nid. Je répète, le coucou est dans le nid. Dis rien!
Ouais, ça aussi, je m'étais fait engueuler. Ouais. J'avais dit que j'étais pas au courant.
On s'amuse comme on peut.
Ça aussi, c'était en onde, hein, c'est ça?
Ah, oui, okay.
Ouais. C'était-tu toi sur ma boîte vocale l'autre jour?
Lequel? Le vieux pervers, oui. Ouais, faut que tu me donnes l'air. Ouais. Si c'était à 3h du matin, c'était moi. Midi 30, merci beaucoup, Denis.
Hey, thank you.
Salut, bye-bye, on t'écoute dans le retour.
Yes. Le garage à